divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin, auquel j'associe l'amical souvenir de Gabriel Gohaut, qui aime tant Lamarck. Cédric Grimoud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire en classe préparatoire, docteur en histoire des sciences, spécialiste de l'évolutionnisme. Vous étiez déjà venu à l'antenne de l'Union rationaliste en 2006 parler de la troisième offensive du créationnisme. Et si je vous ai invité aujourd'hui, c'est que vous venez de publier dans la collection Biographie et mythes historiques chez Ellipse un très beau livre sur Lamarck. Or, à la manière de nombreux savants, mais peut-être encore plus que d'autres, Lamarck a une image et une réputation mitigées. Il a d'abord été conspué, puis héroïsé ou mythifié. Alors, Cédric Grimoud, est-ce la caractéristique de tous les savants, et notamment des naturalistes ou des biologistes, comme on dit depuis lui, plus que d'autres ?
Comme tous les savants qui apportent des nouveautés remarquables, ils dérangent. Mais c'est vrai que dans le cas de Lamarck, il existe des oppositions supplémentaires. D'abord parce qu'il a été nommé par Louis XVI à l'Académie des sciences contre l'avis majoritaire de ses pairs grâce à l'appui de son protecteur Buffon. L'habitude était que le roi respecte l'élection des académiciens, et cette fois-ci, il est passé outre leur avis pour imposer Lamarck, qui ne manquait pas de mérite. Mais ça a quand même suscité un scandale qui a conduit d'ailleurs à une réforme des statuts de l'Auguste Compagnie pour lui garantir l'indépendance dans son recrutement.
Il est passé en force.
Et par surcroît, Lamarck s'est dressé contre la nouvelle chimie de Lavoisier, ce qui était une erreur, et lui a aliéné les soutiens des chimistes, des physiciens les plus en vue, qui ne l'ont pas pris au sérieux lorsqu'il a publié des idées plus pertinentes. Lamarck s'est alors, très tôt dans sa carrière, présenté comme marginalisé, comme anti-système, devenant un emblème de liberté.
Il s'est marginalisé lui-même d'une certaine façon.
Absolument. Et il n'était pas le seul. Et d'ailleurs, c'est une attitude récurrente que l'on observe dans l'histoire des sciences, de certains scientifiques outsiders, ou défendant des points de vue pour lesquels il est difficile d'argumenter.
On peut penser à quelqu'un, aujourd'hui.
Vous voulez me faire parler de Monsieur Raoult, le professeur qui en appelle au public contre l'institution, parce qu'il défend des idées qui ne sont pas dominantes, qui vont à l'encontre de l'esprit dominant dans les académies, dans les cercles savants. Ça, c'est une attitude qu'on a déjà vue, qui était celle, par exemple, de Marat, le célèbre révolutionnaire qui,
médecin
de formation, journaliste, après polémiste, homme politique, et qui en voulait beaucoup à l'Académie des sciences de ne pas l'avoir recruté. Et en défendant justement des points de vue iconoclastes, il en a appelé au public pour renverser les institutions dominantes.
Alors, Lamarck a été conspué, mais il a aussi été héroïsé.
Ses apports se révèlent ambivalents et ses écrits très nombreux ont permis une récupération par de nombreux partisans, très diversifiés d'ailleurs au cours des 200 dernières années. Des gens qui ne ressemblent pas les uns aux autres. Alors, Lamarck, il a à la fois des intuitions visionnaires, des fulgurances théoriques, notamment pour ce qui concerne la classification, étant l'un des tout premiers à mettre en avant le groupe des invertébrés, ce qui a permis d'éclairer considérablement les groupes et les ressemblances ou les différences à établir entre les insectes et les vers, les catégories ainsi nommées Linné. Et puis bien sûr, l'évolution générale du vivant, parce que si l'idée avait déjà été proposée depuis l'Antiquité, la communauté scientifique restait sur un fixisme, l'opposé du transformisme, de l'idée que les espèces évoluent, et en fait relié au créationnisme biblique. On se souvient qu'au début de la Genèse, Dieu aurait créé le monde en 6 jours. Et les espèces telles que nous les connaissons aujourd'hui, Lamarck fait table rase, fait exploser tout cela en montrant justement le premier des arguments tout à fait valables pour relier les espèces les unes aux autres dans un grand arbre généalogique, on dit aujourd'hui phylogénétique. Mais Lamarck commet aussi de graves fautes méthodologiques, se fondant uniquement sur l'observation et la déduction, qui part d'idées préconçues, à la recherche de confirmations qu'il finit toujours par trouver. Ces fautes de raisonnement sont parfois criantes, comme avec l'hérédité des caractères acquis, le mécanisme par lequel il explique l'évolution. Son exemple typique, c'est la girafe. Les girafes auraient allongé leur cou à force de tirer dessus génération après génération pour atteindre les branches les plus hautes des arbres. Lamarck place donc les besoins avant et comme étant cause des fonctions, ce qui s'est avéré erroné et illogique, cela lui étant bien sûr vivement reproché.
Pourquoi la révolution de 1789 va jouer un rôle crucial dans la maturation de ces idées? Est-ce justement à cause de l'opposition aux dévots?
Il y a deux niveaux de réponse. Il y a un niveau contextuel qui vient du fait que la révolution a été plein de choses, et notamment une libération de la parole. Il y a des verrous psychologiques et institutionnels qui ont sauté. Et Lamarck vient d'une vieille famille aristocratique, dont l'arbre généalogique remonte à avant l'an 1000. C'est une vieille noblesse d'épée, donc normalement très traditionnaliste. On aurait pu le croire très traditionnaliste. Il a fait son collège chez les jésuites, et donc il n'était pas du tout prédisposé à devenir justement un biologiste révolutionnaire. C'est la libération de la parole qui le conduit progressivement à oser exposer justement ces conditions, ces nouvelles idées sur les sciences du vivant. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que la révolution, elle permet des brassages sociaux, elle permet des rencontres, notamment la rencontre avec le médecin matérialiste de la Métrie, qui cause énormément avec Lamarck, qui le force là aussi dans ses retranchements à réfléchir de nouveau, à définir la nature, à définir l'espèce biologique. Et cela met évidemment Lamarck sur la question des origines et à repenser en fait les catégories qu'il avait initialement posées.
En quoi sa conception de la nature bouleverse-t-elle les sciences du vivant?
Lamarck rejette dos à dos la théologie naturelle des dévots, qui a encore beaucoup de partisans, et l'athéisme des libertins, qui accepte volontiers que les espèces se fondent les unes dans les autres, mais dans une sorte de chaos, de balai infernal, qui ressemble beaucoup aux métamorphoses d'Ovide et très peu à l'évolution telle que on l'observe aujourd'hui. Lamarck propose un déisme naturaliste, c'est-à-dire qu'il reconnaît les seuls phénomènes et pose que si Dieu a créé le monde, on ne peut pas le vérifier, mais surtout il l'a laissé se développer. Il l'a laissé se transformer, se changer sans intervenir. Et cette position, qui était déjà celle de Descartes, s'avère libératoire parce qu'elle sort du fatalisme strict des théistes et du hasard chaotique et sans règles des libertins du XVIIe siècle. C'est une base donc du coup d'un naturalisme méthodologique extrêmement moderne auquel les scientifiques d'aujourd'hui peuvent complètement se raccrocher et qui a eu une fécondité immédiate, notamment dans la géologie, puisque Lamarck est un soutien de l'actualisme, c'est-à-dire une position méthodologique qui refuse de faire appel à des catastrophes divines, comme le déluge par exemple, auxquelles adhère Cuvier notamment.
Alors justement, puisque vous parlez de Cuvier, peut-on parler des opposants de Lamarck? Qui sont-ils et quel rôle a la controverse avec Cuvier, qui dure, je crois, plus de 30 ans?
C'est ça, d'à peu près 1800 jusqu'à la mort des deux protagonistes, enfin surtout de Lamarck en 1829. Bien que Cuvier, dans son éloge funèbre à l'Académie, renvoie des piques d'une extrême violence contre Lamarck, qu'il accuse justement d'avoir inventé des romans, des fantaisies très plaisantes au niveau de la littérature, mais qui ne seraient pas scientifiques.
L'hommage de Cuvier à Lamarck est en fait...
une occasion de
l'attaquer.
L'attaquer.
De l'assassiner.
Une dernière fois, de lui planter le couteau. Et ça, d'ailleurs, ça a été beaucoup reproché à Cuvier, parce que ça n'est pas évidemment... très correct.
Qu'on attend.
Non, il aurait pu avoir le triomphe plus modeste. Et en fait, ce dialogue entre les deux géants, cet affrontement, s'est avéré incessant et structurant. Je crois qu'on peut insister là-dessus, parce que la science en train de se faire, qui n'est pas encore définitivement acquise et fossilisée dans les manuels scolaires, elle se trouve par définition sujette à débat. Ces affrontements, dont nous sommes par exemple témoins au sujet de la Covid depuis près d'un an, ces affrontements peuvent tourner à la polémique, ad hominem, éventuellement, avec des arguments violents, mais ils peuvent faire avancer la recherche, car ils obligent chacun des camps à préciser ses hypothèses, définir ses concepts, proposer des expériences, jauger les preuves en contradictoire. Et finalement, ce sont ces débats qui sont une garantie indispensable à l'esprit critique. Parce que, encore une fois, quand il y a un seul qui donne sa vérité, eh bien, on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer. Et donc, c'est une condition essentielle de la poursuite du progrès scientifique.
Une bonne polémique. Alors, certains partisans de ce qu'on appelle l'épigénétique, terme que vous allez éclairer, se réclament de Lamarck. Vous pensez que c'est une erreur ou que c'est vrai ?
Lamarck est devenu un étendard pour ceux qui prétendent, à des fins médiatiques, révolutionner la biologie. Alors, il y a évidemment une double réponse, une réponse au niveau très simple, je dirais. L'hérédité des caractères acquis, dont nous parlions tout à l'heure, semble du côté de l'éducation contre la fatalité génétique. Et ça, c'était un débat qui s'est joué dans les années 1970 et 1980, en ces termes-là, surtout dans les grandes revues scientifiques, mais qui est aujourd'hui franchement périmé, qui est dépassé. En tout cas, ces termes-là sont dépassés. Pourquoi ? Parce que, comme son nom l'indique, l'épigénétique désigne les modalités de régulation de la réponse de l'être vivant aux conditions ambiantes, éventuellement sur plusieurs générations. Pour le dire autrement, l'épigénétique, elle témoigne de la plasticité du vivant, que les généticiens classiques n'ont jamais nié. Mais les changements épigénétiques ou comportementaux ne sont possibles que s'ils font partie de la gamme initiale des réactions programmées, gamme qui peut s'enrichir évidemment, mais par des mutations génétiques, éventuellement retenues par la sélection multipolaire, c'est la sélection naturelle, mais aujourd'hui on considère qu'elle s'exerce à chaque niveau d'intégration du vivant, c'est pour ça qu'on l'appelle sélection multipolaire. Autrement dit, l'épigénétique, elle est complémentaire de la génétique, et elle ne s'oppose pas, mais au contraire, elle s'inscrit dans le cadre néo-darwiniste, élargi de l'actuelle théorie synergique de l'évolution. On a eu coutume d'opposer de manière simpliste Lamarck et Darwin, alors qu'ils n'ont vu chacun qu'une parcelle d'un mécanisme très complexe. Et il vaut mieux s'inspirer de leur vision en des termes complémentaires plutôt qu'opposés.
Donc, ce que vous dites, Cédric Grimoux, c'est que Lamarck avait d'une certaine façon raison, que l'opposition qu'on a eu coutume de faire entre Lamarck et Darwin n'était pas de mise.
Elle a existé pendant à peu près 70 ans, de la fin du 19e siècle au milieu du 20e siècle. Mais il faut dire aussi que les gens qui se réclamaient de l'hérédité des caractères acquis à cette époque, ça n'était déjà plus l'hérédité des caractères acquis telle que Lamarck l'avait comprise. Il servait déjà d'étendard, notamment pour des raisons nationalistes. On s'opposait alors farouchement au darwinisme britannique et au darwinisme germanique. Bon, donc Lamarck, il a posé des questions stimulantes. Il a provoqué des débats qui ont fait avancer la science et qui continuent d'ailleurs de questionner aujourd'hui les chercheurs. Il n'avait pas raison pour ce qui concerne l'hérédité des caractères acquis, mais il avait raison d'attirer l'attention sur justement cette réactivité très variée des êtres vivants aux conditions de l'environnement.
Est-ce que vous diriez de Lamarck qu'il était un rationaliste, Cédric Grimaud ?
Je crois que c'est très pertinent, même si le terme évidemment n'existait pas et dans l'acception actuelle. Mais il a beaucoup employé le terme de raison, à la fois comme guide dans sa vie personnelle, parce qu'il a mis au point une morale laïque qui ressemble beaucoup en fait à l'ancien stoïcisme, par lequel il prône la modération, l'inscription dans la société. Donc ça, c'est pas très révolutionnaire. Il était
un peu conservateur.
Oui, il prône en fait de faire le dos rond quand les conditions extérieures sont adverses, ce qui ne l'empêche pas de garder son franc-parler et de maintenir la liberté de sa pensée. Même, on pourrait presque dire comme une condition de liberté de sa pensée, puisqu'à l'époque de la Restauration, hein, entre 1815 et 1830, lorsque donc la monarchie est redevenue presque absolue sous les frères de Louis XVI, il tient des propos qui sont franchement à la limite du scandale pour un fonctionnaire. Il ose dire qu'il n'y a pas de connaissance qui tienne, qui soit valable, si elle n'est pas fondée concrètement. C'est un point de vue tout à fait rationaliste et même, on pourrait dire, ébouriffant pour l'époque. Et puis donc, Lamarck était aussi tout à fait rationaliste dans sa vie personnelle. Et il a laissé des témoignages peu nombreux, mais très touchants, justement, concernant son attitude par rapport à la vie sociale et la vie familiale.
Bon, c'est sur cette vision d'un Lamarck rationaliste que nous allons clore cette émission. Cédric Grimaud, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Je renvoie donc au livre de Cédric Grimaud paru aux éditions Ellipse, Lamarck, et je renvoie également au numéro de Raison Présente, 214-215, dans lequel nous avons publié les actes du colloque de l'Union rationaliste, intitulé « Les sciences biologiques et médicales, rationalité et éthique ». Je remercie Peyré Legras, Claire Poinsignon et Jean-Louis Deloncle qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.